Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 4 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Nouvelle attaque dans le nord du Burkina Faso. Au moins 9 soldats ont péri dans l'escarmouche. Au Soudan, de nouveaux échanges de tirs à Khartoum ce lundi, avec des djihadistes présumés, des heurts qui surviennent une semaine après que des officiers ont été tués dans des affrontements similaires. Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed investit aujourd'hui pour un nouveau mandat de 5 ans. Le prix Nobel de médecine 2021 a été attribué aux Américains David Julius et Ardem Patapoussian. Ils sont récompensés pour leur découverte sur l'adaptation de l'homme aux variations de son environnement. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Burkina Faso, au moins 9 soldats ont été tués et 5 autres ont été blessés ce matin dans une attaque contre un détachement militaire dans le nord du pays, ont indiqué des sources sécuritaires. Le point avec Nani Talani.
Ces sources ont indiqué que des individus armés ont attaqué vers 5 heures locales le détachement militaire de Yirgu dans la commune de Barsalogo, dans le centre-nord du pays. Le bilan pourrait s'alourdir. Les blessés ont pu être évacués pour être soignés. La gravité de leurs blessures n'a pas été précisée. Certains équipements ont été incendiés et d'autres emportés par les assaillants, a mentionné l'une des sources, évoquant un bilan matériel énorme. Du côté du gouvernement, on évoque des opérations de ratissage qui sont en cours avec des renforts déployés dans la zone. Le Burkina Faso fait face à des attaques djihadistes régulières et meurtrières. Samedi, 2 soldats ont été tués et 2 autres blessés dans l'explosion d'un engin artisanal à Larabin, près de la frontière ivoirienne. Mercredi dernier, 5 autres militaires qui effectuaient une mission de reconnaissance à Mentao, dans le nord, ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes djihadistes, ont fait environ 2000 morts et contraint plus de 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.
De nouveaux échanges de tirs ont opposé lundi à Khartoum les forces de sécurité soudanaises et des djihadistes présumés, a rapporté la télévision d'État. Il y a environ une semaine, des officiers ont été tués dans des affrontements similaires. Les précisions avec Eric Manirakiza.
La police a bloqué les rues menant à la zone de la fusillade dans le quartier d'Ojabra, dans le sud de la capitale soudanaise. Selon le correspondant de l'AFP, des ambulances affluaient vers le lieu des échanges de tirs qui se sont poursuivis dans la journée. La télévision nationale a confirmé ces affrontements armés avec une cellule terroriste à Jabra. Cette nouvelle fusillade intervient 6 jours après que le renseignement soudanais a annoncé la mort de 5 agents du contre-terrorisme lors d'un raid contre une cellule liée à l'organisation État islamique, puis l'arrestation de 11 terroristes de différents pays étrangers et la fuite de 4 autres. Ces récents incidents sécuritaires représentent un défi supplémentaire pour le Soudan qui tente de mener à bien sa transition après la chute du régime de Omar el-Béchir. Et depuis plusieurs semaines, un mouvement de contestation qui a partiellement paralysé 2 oléoducs à Port-Soudan, poumon commercial du pays, menace l'ensemble de l'import-export soudanais.
Experts de l'ONU tuant à RDC, la défense a de nouveau demandé aujourd'hui, à la veille d'une nouvelle audience à Kananga, dans le centre du pays, la libération du journaliste congolais Sosthène Kambidi et des autres témoins entendus au procès du meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017. À ce stade de l'instruction du dossier, Sosthène Kambidi n'est ni inculpé ni prévenu. Il comparaît en qualité de témoin, souligne Maître Dominique Kambala dans un nouveau courrier à l'auditorat militaire réclamant la libération du journaliste. L'avocat compte donc réitérer à l'audience de demain mardi cette demande qui vaut également pour un journaliste reporter d'images, Israël Ntumba, et 2 autres personnages également entendus comme témoins. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture intervient dans un contexte de conflit dans le Tigré, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Abdourahman Dia.
Abiy Ahmed, 45 ans, a prêté serment devant la Chambre des représentants du peuple. Son parti, le Parti de la Prospérité, a remporté une victoire écrasante aux élections du 21 juin, signe, selon son administration, qu'il a reçu l'onction populaire attendue et le soutien à ses réformes démocratiques engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Mais le vote s'est déroulé dans un contexte politique et humanitaire difficile. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans la guerre au Tigré, dans le nord du pays, où des centaines de milliers de personnes sont menacées par la famine selon les Nations Unies. Ces derniers mois, les combats se sont propagés aux régions voisines de l'Afar et de l'Amara, tandis que le Tigré est tombé dans ce que l'ONU qualifie de blocus humanitaire de facto, alimentant les craintes d'une famine de grande ampleur, à l'image de ce qu'avait vécu l'Éthiopie dans les années 80. Les États-Unis ont menacé d'imposer des sanctions ciblées en lien avec le conflit. Les relations avec la communauté internationale se sont encore dégradées la semaine dernière lorsque l'Éthiopie a annoncé l'expulsion de 7 responsables d'agences de l'ONU.
La crise entre l'Algérie et la France, provoquée par des déclarations critiques du président Emmanuel Macron, est appelée à durer, estime lundi la presse algérienne en soulignant le caractère inédit de cette brouille. Alger a décidé samedi le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris, en réaction à des propos relayés par le journal Le Monde, où M. Macron questionne l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Alger a interdit dimanche le survol de son territoire aux avions militaires français en guise de riposte. Sur les réseaux sociaux, un hashtag appelant à expulser l'ambassadeur de France à Alger est parmi les plus partagés par les internautes algériens sur Twitter depuis dimanche. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis en Libye depuis 2016, en particulier contre les migrants et dans les prisons, a conclu une mission d'enquête d'experts de l'ONU après une enquête sur place. Les auteurs du rapport notent que la justice libyenne enquête également sur la plupart des cas évoqués par la mission de l'ONU, mais note que le processus pour punir les gens coupables de violations ou de maltraitance est confronté à des défis importants. L'Afrique du Sud fête les 90 ans de Mgr Desmond Tutu, figure politique et caution morale de la nation arc-en-ciel. L'icône de la lutte anti-apartheid fête ses 90 ans jeudi. Il reste une figure morale incontournable en Afrique du Sud. Le révérend Tutu, premier archevêque anglican noir du pays, à l'énergie et au rire contagieux, devrait assister à un service dédié à la cathédrale Saint-Georges, où il a longtemps prêché.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une majorité des membres du Conseil de sécurité a entériné de facto aujourd'hui un report des élections en Haïti qui devrait se tenir au plus tard au second semestre 2022. Rappelant l'accord survenu le 11 septembre entre les parties haïtiennes, la représentante de l'ONU dans ce pays a souligné lors d'une réunion du Conseil qu'il prévoyait la formation d'un nouveau Conseil électoral provisoire et l'inclusion de la diaspora dans le processus politique. Outre l'assassinat de son président, Haïti a été frappé par un séisme à la mi-août et a dû accueillir récemment des milliers de migrants haïtiens expulsés notamment des États-Unis. Le prix Nobel de médecine 2021 a été attribué ce lundi à l'Américain David Julius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoussian pour leur découverte sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher. Claire Morin-Djibou.
Leurs découvertes révolutionnaires ont permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde, a salué le jury Nobel à Stockholm. Leurs travaux servent à des recherches pour de nombreux traitements, notamment pour les douleurs chroniques. Professeur à l'Université de Californie, David Julius a utilisé la capsaïcine, un composant actif du piment qui provoque une sensation de brûlure, pour identifier un capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur. Né à Beyrouth, Ardem Patapoutian, professeur à l'Institut de recherche Scripps, également en Californie, a lui utilisé des cellules sensibles à la pression pour découvrir une nouvelle classe de capteurs. Ce sont tous les deux des chercheurs incroyables qui ont ouvert les portes de la sensation sensorielle d'une manière totalement unique, a loué Thomas Perlman, chef du comité Nobel pour la médecine.
Le président américain Joe Biden s'en est vivement pris aujourd'hui à l'opposition républicaine, l'accusant de jouer un jeu dangereux au Congrès alors que les États-Unis sont menacés de défaut de paiement. Le Parti démocrate dispose d'une majorité trop mince pour pouvoir, avec ses seules voix, relever le plafond de la dette, une manœuvre législative que les parlementaires républicains sont décidés à empêcher. « Je ne peux pas croire que cela arrive », a dit le président américain à propos d'un défaut de paiement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des États-Unis. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
Development Partner International, l'un des leaders du capital investissement au service de l'Afrique, a annoncé lundi que son fonds africain Development Partner 3 a clôturé sa levée de fonds à 900 millions de dollars selon Financial Afrique, au-dessus de son objectif de 800 millions de dollars et auquel s'ajoutent 250 millions de dollars de capital de co-investissement dédié. Cette levée de fonds totalisera 1,15 milliard de dollars pour les investissements sur le continent africain. ADP 3 investira dans des entreprises bien établies et en pleine expansion, opérant notamment dans le digital. Le Camerounais Michel Lobé-Ouané a récemment été nommé conseiller stratégique du cheikh de Dubaï, Son Altesse Cheikh Ahmed bin Faisal Al-Gazimi. Cette nomination répond au souhait des Émirats de se rapprocher des acteurs économiques, notamment des investisseurs du continent. Selon la lettre officielle de cette nomination, Michel Lobé-Ouané, directement attaché au bureau du cheikh, est entièrement autorisé à représenter les intérêts personnels et les affaires du cheikh de Dubaï et attirer des investissements du monde entier aux Émirats arabes unis.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 débutent cette semaine. La République démocratique du Congo va finalement jouer à Kinshasa. Entre-temps suspendu, le stade des Martyrs répond maintenant aux normes après quelques travaux effectués pour respecter les conditions fixées par la FIFA. Les Léopards pourront donc recevoir Madagascar à Kinshasa le jeudi 7 octobre. Un match important pour Hector Cooper qui a retenu 25 joueurs pour cette double confrontation avec notamment le retour de Gaël Kakuta, blessé le mois dernier. Les Léopards sont 3e de leur groupe après 2 matchs nuls. Le parquet de la Fédération italienne de football a annoncé l'ouverture d'une enquête après les insultes racistes qui ont visé le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. La Fiorentina s'est excusée auprès de Kalidou Koulibaly, visé après le match par des cris racistes des spectateurs comme ses coéquipiers, le Nigérien Victor Osimhen et le Camerounais Frank Zambo Anguissa. Sans directement évoquer cet incident, Osimhen a publié un message pour dire non au racisme en italien et en anglais. Kalidou Koulibaly a lui publié un autre message sur Instagram en italien, en français et en anglais demandant que les supporters l'ayant insulté soient bannis pour toujours des stades. « J'ai dit fin juillet que je voulais partir », a déclaré Kylian Mbappé au micro de la radio RMC, confirmant pour la première fois publiquement ses envies de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. « Moi, ma position a été claire, j'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt ». Au dirigeant du PSG a expliqué le français, c'est la première prise de parole de Mbappé sur le sujet, après l'échec de son possible transfert au Real Madrid, lequel a proposé en vain 180 millions d'euros en août pour acheter sa dernière année de contrat qui finit en juin 2022. Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat, laissant craindre un départ libre à l'été prochain. NBA, l'ailier de Golden State, Andrew Wiggins, s'est fait vacciner contre le COVID-19 et pourra jouer les matchs de son équipe à domicile la saison prochaine, a indiqué son entraîneur Steph Kerr. La possibilité de jouer était mise en doute par son refus initial de se faire vacciner. La NBA a rejeté fin septembre sa demande d'exemption pour motif religieux. Selon une décision du département de santé de San Francisco, toute personne à partir de l'âge de 12 ans doit être vaccinée pour pouvoir participer à des événements en salle dans la ville. Les réglementations sanitaires à New York imposent aussi une obligation pour des sportifs d'être vaccinés et cela concerne les joueurs des Knicks et Brooklyn Nets. Chez les Nets, Kyrie Irving a jusqu'à présent refusé de faire des commentaires sur son éventuelle vaccination. Lui aussi ne pourra pas jouer pour les Nets à domicile sans être vacciné.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, au moins 9 soldats ont été tués ce lundi dans une attaque contre un détachement militaire de Yirgou dans le centre-nord. Le pays fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, le plus souvent dans les régions du nord et de l'est proches du Mali et du Niger. Mais elles touchent parfois le sud, comme ce fut le cas samedi, lorsque 2 soldats ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal à Larabin, près de la frontière ivoirienne. Ces attaques s'étendent de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Mahamadou Sawadogo, chercheur en sécurité.
Mais tu veux remarquer qu'après la saison des pluies, nous avons une intensification des attaques parce que les groupes armés ont eu le temps de se reposer, de parler, de s'équiper et puis de recruter au maximum. Et ici, il ne faut pas perdre de vue le fait que ces groupes armés terroristes-là sont de plus en plus très bien équipés sur le plan technique et sur le plan logistique. Et ce qui fait que leur structure leur permet effectivement de mener des attaques complexes. Des attaques contre les détachements, ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas une surprise qu'ils attaquent un détachement.
Le week-end, il y a eu une attaque dans les cascades, Karma au sud. Ce n'est pas fréquent dans cette zone-là. Comment expliquer cela?
Depuis le début de l'année, cette zone subit des attaques de ces groupes armés terroristes. Malheureusement, la région de l'Ouest a été la région la oubliée, et où on a laissé tranquillement ces groupes armés installer leurs bases arrières, installer leurs réseaux de renseignement. Je pense qu'à l'heure actuelle, ces zones qui sont de plus en plus attaquées sont très bien maillées par ces groupes armés terroristes qui maîtrisent aujourd'hui le terrain à l'Ouest. Et qui de plus en plus entreprit de conquérir cette zone qui est frontalière avec la Côte d'Ivoire et frontalière avec le Mali, et même d'une même mesure avec le Ghana.
Alors, attaque aujourd'hui dans le centre-nord, il y a également l'Est qui est touché, le Sahel. On se demande quelle partie du territoire n'est plus menacée.
Oui, effectivement, on est pris en étau par ces groupes armés terroristes. Mais cela dépend des dynamiques. Par exemple, je reviens un peu sur l'Ouest. Qu'est-ce que trouvent les groupes à se réfugier à l'Ouest? L'Ouest est devenu comme une base arrière pour ces groupes, au cas où ils sont pris au Sahel, à l'Est ou dans le centre-nord. Et ici, ils s'attaquent à la région de l'Ouest parce que d'autres ont pu se réfugier après des combats intenses qu'ils ont eu avec l'autre groupe qui est le GR, qui n'a pas encore atteint cette zone. Donc c'est ça qui explique un peu aussi pourquoi ils s'intéressent à l'Ouest. Ici, l'Ouest est stratégique pour eux parce que c'est une zone aussi de 3 frontières, entre les 3 pays, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali et même le Burkina. Aussi, pour expliquer pourquoi il n'y a pas une zone qui est attaquée, il n'y a pas une zone qui est épargnée, les groupes armés terroristes ont tendance à s'installer dans les zones où attaquer les zones où ils ont une facilité de mobilité et ils sont moins entraînés. Et donc, effectivement, c'est le cas du Burkina.
Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a connu quelques attaques. Il y a le Ghana qui est également menacé, vous venez de le dire. C'est dire que nul n'est en abri, même les pays voisins qui ne sont pas habituellement touchés.
Ce n'est pas le Burkina seulement qui est dans leur viseur. Et même que le Burkina, qui est le premier maillon sur le Burkina, sauf que les autres pays vont sauter. Donc, ce qui veut dire que ce soit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, sont déjà dans leur viseur. Et je dirais même qu'ils ont des bases arrière dans le nord de ces pays-là.
En Al-Qaïda, le groupe État islamique et autres, qui sont ceux vraiment qui sont à l'origine de ces attaques qui se multiplient quand même?
Ça dépend de la zone. Dans la zone frontalière avec le Mali, c'est-à-dire le centre-nord, une partie du Sahel, et l'Ouest, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Jénine qui est très actif. Et dans la région de l'Est, c'est-à-dire la partie frontalière avec le Niger, une partie du Sahel, c'est-à-dire Marcoy et puis Loudalam, et le Yaga, c'est plutôt le Niger, l'État islamique au Grand Sahara. Il faut reconnaître que ces groupes sont tellement structurés dans une répartition de chaque zone, avec des leaders locaux et des leaders internationaux. C'est carrément une organisation très bien ficelée.
Mahamadou Sawadogo, chercheur en sécurité, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lutte contre le terrorisme, le Mali vient de recevoir 4 hélicoptères de guerre de type Mi-171, des armes et des munitions. Les appareils ont été fournis par la Russie, pays ami avec lequel le Mali entend nouer un partenariat fructueux. De nombreux Maliens se félicitent de l'arrivée de ces appareils et espèrent un changement positifs dans la lutte contre les djihadistes. Notre correspondante à Bamako, Mariam Kouyaté, nous en dit plus.
Le Mali a acheté 4 hélicoptères militaires pour renforcer ses équipements de lutte contre les terroristes. À Bamako, l'arrivée de ces 4 appareils ont été accueillis avec joie par les Maliens, dont certains nous livrent leurs impressions.
Mon avis sur l'arrivée des 4 avions, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'armée, de 2 pour la population. En tant que Malien, je félicite les autorités.
À un moment donné, il fallait vraiment des moyens aériens pour combattre ces djihadistes. Surtout que c'est des avions qui ont été achetés par fonds propres. En quelques périodes seulement où ces jeunes sont au pouvoir, ils ont pu quand même déployer tous ces moyens. On est humilié.
C'est un point avancé dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire national.
Adama Dionko, observateur de la crise sociopolitique et sécuritaire, pense qu'avec l'arrivée de ces hélicos, il faut 2 préalables pour réussir la lutte antiterroriste.
La première chose est qu'il faut s'orienter vers une collaboration civilo-militaire. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité pour l'armée malienne, même si elle se renforce avec des avions, si sur le terrain, si les militaires ne collaborent pas avec les civils, ça va être difficile de gagner le combat. Et l'autre chose aussi qu'il faut prendre au sérieux, qui peut aussi être un élément déterminant dans la lutte contre le terrorisme, c'est le soutien que les terroristes ont. Ces soutiens sont des soutiens souvent médiatiques, c'est des soutiens associatifs. Comment est-ce qu'ils arrivent à acquérir leur carburant? Comment est-ce qu'ils sont ravitaillés en armes, en munitions, en motos? Toute cette complicité se trouve dans les grandes villes en réalité. Donc il va falloir que ces commanditaires qui sont tapis dans les grandes villes à Bamako, à Ségou, à Mopti, à Niono soient inquiétés. Qu'ils soient recherchés, retrouvés, arrêtés et puis traduits devant les tribunaux.
L'arrivée de ces hélicos intervient dans un contexte de tension avec la France face à un possible recours du Mali au groupe privé russe Wagner. Mariam Kouyaté, Bamako pour la VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Rentrée scolaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, les enseignants dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, ne sont pas d'humeur à reprendre les cours. Ils demandent aux autorités d'améliorer leurs conditions salariales qu'ils jugent inacceptables depuis plus de 2 ans. Les détails avec Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
Lorsqu'on a été réunis en intersyndical de tous les enseignants du Nord Kivu, nous avons décidé, nous avons dit, nous n'allons plus retourner à l'école pour dire c'est lundi 4 octobre, c'est la grève sèche qui a été lancée.
Ainsi, Chama Boubaala, le président provincial de la force syndicale nationale, tape du poing sur la table en maintenant la position de boycott de la rentrée scolaire prévue ce 4 octobre. Ces syndicalistes motivent cette décision par le retard dans le paiement des enseignants.
Trop, c'est trop. Ça fait des années que nous sommes en train de souffrir dans ce pays et les gens, les politiciens sont en train de se partager des millions de dollars au niveau de Kinshasa. C'est pour cette raison que nous martelons. Les parents devraient rester avec leurs enfants à la maison car il n'y aura aucun enseignant qui va les encadrer dans les écoles.
Cette décision des enseignants inquiète beaucoup les parents d'élèves qui craignent une régression de la qualité de l'enseignement de leurs enfants. Katika Songo est la mère de 3 enfants, tous élèves. Elle s'inquiète de l'avenir de ses enfants qui n'ont pas bénéficié pleinement ces 2 dernières années des cours à cause des grèves souvent déclenchées par les enseignants. Elle appelle le gouvernement à se ressaisir.
Tant que le gouvernement ne s'occupe pas bien des enseignants, l'éducation de nos enfants restera en danger. Parce qu'ils ne bénéficient pas d'une très bonne formation, parfois il y a des interruptions, ils peuvent faire 1 mois à l'école et ensuite ils interrompent pour 1 autre mois. En restant à la maison, l'éducation se détériore chez les enfants.
Les activistes et défenseurs des droits de l'enfant élèvent la voix pour demander au gouvernement d'agir au plus vite. Selon Akouze Walai, l'un d'entre eux, l'avenir des enfants est est en train d'être mise en déroute à petit feu.
Des grèves en répétition ne cessent de mettre en péril l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos petits frères, de nos petites sœurs. Au moins depuis 3 ans que l'enseignement est chaotique au pays, l'éducation semble être oubliée. Pourtant, l'éducation devrait rentrer au centre même des réflexions de nos politiques. Il est temps de relever encore beaucoup plus haut les flambeaux de l'éducation. Sans l'enseignement, l'avenir de notre pays est en train d'être hypothéqué par les politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes.
Pour cette année scolaire, le gouvernement a promis d'ajouter 20 000 francs congolais, soit l'équivalent de 10 dollars américains au salaire des enseignants. Malgré cette décision, les enseignants mécontents restent fermes dans leur décision. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pandora Papers, l'enquête du consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, met en lumière le décalage entre le discours anticorruption de certains leaders et leur usage extensif des paradis fiscaux. Plus de 300 responsables politiques du monde entier, des stars ou des criminels, sont pointés du doigt. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint ici à Washington DC Will Fitzgibbon, coordinateur du partenariat Afrique et du Moyen-Orient auprès de l'ICIJ.
Les révélations des Pandora Papers en ce qui concerne Afrique sont plutôt étonnantes. On voit de divers chefs d'État, y compris Uhuru Kenyatta ou Kenya, le président. On voit même des sociétés offshore détenues par Denis Sassou Nguesso et aussi une société offshore en partie détenue par président Bongo au Gabon. Et ça, c'est ne que des chefs d'État, sans compter de divers ministres, le premier ministre ivoirien. Il y a vraiment beaucoup de noms africains et je pense que c'est pour cela que cette enquête est vraiment importante pour le continent.
Et quel est le montant au niveau du continent, justement?
Les documents, dans chaque cas, ne nous permettent pas de savoir pour quelle société ou quelle personne les montants en question. Ce que nous savons, c'est que dans chaque cas, qui concerne des dirigeants africains, des hommes politiques africains, nous avons trouvé aucune trace de la déclaration de ces hommes politiques, c'est-à-dire M. Hachi en Côte d'Ivoire. Selon notre recherche, il n'a jamais déclaré l'existence de son compte offshore. Ça ne va pas dire que c'est illégal ce qu'il a fait, pas du tout. On ne parle pas forcément de questions d'illégalité, mais le fait qu'un premier ministre ne dévoile pas ses sociétés offshore, or les sociétés offshore sont très souvent utilisées dans des scandales. C'est un problème et c'est pour cela que nous dévoilons les secrets financiers de ces politiques africains.
Vous dites que les transactions ne sont pas illégales. Est-ce que c'est de l'argent acquis illégalement?
On ne peut pas dire cela non plus. Certes, on peut se poser des questions. Comment ces hommes politiques ont fait de l'argent? Malheureusement, je dois dire, il y a très peu de dirigeants africains qui ont daigné nous répondre. Le président du Kenya ne nous a jamais répondu. Monsieur Hachi ne nous a jamais répondu. Or, nous les avons donné des semaines à répondre à nos questions, donc un délai très, très généreux. Même si on ne voit pas des transferts d'argent, mais parfois on voit des comptes bancaires à l'étranger, par exemple dans le cas de Monsieur Hachi, je pense que c'est très important de comprendre que ce n'est pas les sujets de Pandora Papers ne sont pas importants uniquement si on parle de illégalité. Pas du tout. On parle des hommes politiques qui sont élus pour représenter les citoyens. Or, nous découvrons maintenant qu'ils ont caché quelque chose, des choses très, très importantes. Donc, c'est pour cela, encore une fois, que nous faisons ces enquêtes, malgré les pressions. Parce que je peux vous dire, en parlant avec des journalistes en Afrique avec qui j'ai travaillé, il y a beaucoup, beaucoup de pression venant de ces hommes politiques en Afrique. Ils ne veulent pas que ces secrets soient dévoilés.
Et quel est l'impact de ces paradis fiscaux sur l'économie africaine ou de ces pays?
Justement, c'est la raison peut-être la plus importante pour laquelle nous faisons ce genre d'enquête, c'est que selon l'ONU, selon le FMI, selon de divers experts, le continent africain perd des millions et des milliards de dollars chaque année à cause des paradis fiscaux, à cause de ces coquilles vides, c'est-à-dire des sociétés anonymes créées dans des paradis fiscaux. Donc notre enquête contribue à la lumière qui sera portée sur ce système pour que, nous espérons, il y ait moins d'argent qui sorte du continent africain sans contrôle, sans payer des impôts. Mais il faut ajouter qu'il y a un long chemin devant le continent.
Wilfis Gibon, coordinateur du partenariat Afrique et du Moyen-Orient auprès de l'ICIJ, un réseau de journalistes et de médias basés à Washington. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.